Mola Archives Sonore.
Qu'est-ce qui, dans cette affaire, immédiatement, vous a retenu,
Oui, j'ai éprouvé, enfin, en lisant les premiers articles sur cette affaire, une espèce de sentiment de sidération que je pense que je n'ai pas été le seul à éprouver. Enfin, je me souviens de beaucoup de gens qui n'étaient pas spécialement, vous voyez, des lecteurs très attentifs de faits divers, mais qui, quand même, là, étaient... regardez ça avec vraiment une espèce de stupeur. Et effectivement, j'ai très, très tôt envisagé d'écrire quelque chose là-dessus, sans savoir bien sous quelle forme. J'ai envisagé de l'écrire sous une forme romanesque, en m'inspirant librement. Et puis, à un moment, j'ai pensé à écrire vraiment cette histoire, sans me sentir libre d'inventer autour d'elle. Il me semblait qu'il y avait une espèce de poids de réalité qui faisait que... qu'essayer de tourner autour en m'en inspirant, en changeant ce qui m'arrangeait, etc. Enfin, il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Ce que je dis là n'est ni un point de vue littéraire, ni un point de vue moral strict, mais j'ai éprouvé une espèce d'embarras à l'idée de tripatouiller ça à ma guise. Et donc j'ai envisagé d'écrire quelque chose vraiment sur cette histoire sans savoir la forme que ça allait prendre. Et ça a pris d'ailleurs très longtemps, ça a pris quelque chose comme ça, pas loin de 7 ans en fait, durant lesquels j'ai fait d'autres choses. Dieu merci, j'ai pas passé tous 7 ans le nez sur l'affaire roman, ce qui est quand même quelque chose, enfin ce qui est une histoire quand même très 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 éprouvante psychiquement quand même à approcher.
Oui, mais enfin, vous dites que vous avez passé 7 ans à faire autre chose. Pas tout à fait. D'abord, vous lui avez écrit tout de suite.
Dans la mesure où il était encore en vie, j'avais l'impression que si je décidais d'écrire sur cette histoire, il fallait que j'entre en contact avec lui. Il fallait que j'ai un accès à lui. Je ne sais pas du tout ce que j'en attendais. Je ne pense pas même que j'étais assez naïf pour me figurer qu'il me dirait à moi des choses qu'il ne dirait pas au juge d'instruction, puis plus tard à la cour qu'il a jugée. Mais j'avais l'impression que j'avais besoin de l'entendre, de le voir. Donc je lui ai écrit en 93, en lui faisant part de mon projet d'écrire un livre sur cette histoire. Et j'ai attendu sa réponse en me disant que s'il ne me répondait pas, à ce moment-là, j'abandonnerais le projet sous la forme que j'envisageais, ce qui n'empêcherait pas que je me sentirais tout à fait libre d'écrire un livre de fiction à partir de cette histoire. Mais ça serait autre chose. Je n'ai pas reçu de réponse. J'ai donc essayé d'écrire ce livre de fiction et je n'y suis pas arrivé. J'avais vraiment l'impression de quelque chose qui sonnait faux, qui n'arrivait pas à prendre corps. Et j'ai écrit un autre livre, en fait, qui s'appelait La classe de neige, qui est paru il y a 5 ans, en 95, qui n'a pas de rapport direct avec cette histoire. Enfin, l'histoire n'est pas du tout la même. En revanche, il y avait certaines images, certains thèmes qui étaient communs, dont je pense qu'ils venaient de ce travail interrompu sur l'histoire roman.
Et quel thème, quelle
c'était image. Pas un thème, c'était, en fait, c'était plutôt une image. C'était l'image d'un... Parce que... Je suis forcé de faire une parenthèse, pardonnez-moi, mais au fond, une des choses qui m'avait le plus troublé et qui était à l'origine de mon désir d'écrire sur cette histoire, qu'on avait appris dès les premiers temps dans les articles de presse, c'était que cet homme qui partait le matin, accompagnait ses enfants à l'école, était censé ensuite traverser la frontière, aller à Genève et aller passer sa journée à l'OMS, ou bien aller fréquenter des colloques, des congrès, des séminaires internationaux, puisque c'était censé être un chercheur de grande envergure. Au lieu de faire ça, il allait, non pas justement comme quelqu'un qui mène une double vie, faire toutes sortes d'autres choses plus ou moins clandestines, louches et romanesques. Il passait des journées d'un vide total. Il prenait sa voiture, enfin il restait dans sa voiture, il allait se poser sur des aires d'autoroute, dans des parkings, où il passait une partie de ses journées dans des cafétérias. Enfin, ce qui me troublait énormément, ou bien il allait marcher dans les bois du Jura. Ce qui me troublait beaucoup, c'était l'idée de, pendant 10 ans, d'un homme qui passe des journées absolument vides, et où je me posais la question de savoir mais qu'est-ce qui pouvait tourner dans sa tête, quelle était la nature de son monologue intérieur. Et c'était vraiment ça la question de départ pour moi, disons ce qui a suscité le désir d'écrire là-dessus. Et au fond, de l'image autour de quoi s'est construit ce récit, La classe de neige, était l'image d'un homme, d'un père, qui marchait dans la neige, comme ça, replié sur une espèce de secret absurde, dont personne ne savait rien, et dont il était vital pour lui, enfin, c'était une question de vie ou de mort, que personne n'en sache rien. Et c'était vraiment... c'est quelque chose qui est, vous voyez, en deçà d'un thème romanesque. C'était vraiment une image, mais qui était une image obsédante. Et autour de quoi s'est donc organisé ce récit, alors là, qui était une pure fiction, qui s'appelait La classe de neige. Et quand ce récit est paru, donc 2 ans après le fait divers et 2 ans après ma lettre à Roman m'a répondu en me disant qu'il venait de lire le livre en question, qu'il en avait été très ému et que si j'étais toujours partant, lui l'était aussi. Pourquoi, je sais pas, et lui non plus. Mais alors j'ai été très très troublé, comme vous pouvez l'imaginer, par cette lettre, et je dois dire que j'étais à ce moment-là, j'avais absolument abandonné ce projet et j'avais vraiment aucune envie désormais d'écrire là-dessus. Mais là, je me suis vraiment senti quand même rattrapé par la manche, et au fond, c'était moi qui avais pris l'initiative, donc je ne pouvais pas tellement échapper à cette responsabilité, en sorte que je lui ai répondu et que s'est engagée une correspondance, pas très régulière, mais enfin une correspondance où j'ai essayé de lui poser un peu des questions sur ce qui avait précédé cette tragédie. Finalement, très peu, parce que d'abord le procès approchait. Et je savais par expérience, pour avoir quelquefois suivi des procès d'assises, que, enfin, au fond, tout ce qu'on veut savoir, surtout il s'agissait d'un procès, enfin, long, qui a duré une dizaine de jours. Dans une dizaine de jours de procès, on apprend énormément, et tout ce qu'on veut apprendre, je dirais factuellement, on sait qu'on y aura accès. Donc, l'espèce de correspondance que j'ai eue avec Roman portait finalement davantage sur sa vie après, sur sa vie en prison, parce que c'est une question aussi, je veux dire, qu'est-ce que ça signifie de survivre à une telle tragédie ? Enfin, un type qui a tué sa femme, ses enfants, ses parents, et qui survit à ça, il y a quelque chose enfin, d'affolant là-dedans. Donc, voilà, une espèce de correspondance s'est mise en place. Puis, j'ai assisté au procès, qui a été très, 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 très éprouvant et très impressionnant. Qui était, je dois dire, enfin, un procès qui avait d'autant plus de qui s'est déroulé avec une grande tenue, lié sans doute au fait que c'était un procès sans véritable enjeu pénal. Quand quelqu'un a fait ce qu'il a fait, normalement, il prend le maximum, c'est-à-dire ce à quoi il s'attendait, ce à quoi tout le monde s'attendait, en sorte que il n'y avait pas, vous voyez, comme dans certains procès où il y a doute, crainte de l'erreur judiciaire, des débats. Là, au fond, tout le monde. Enfin, chacun à sa place, juge, avocat général, avocat, tout le monde était tout de même animé par le désir de comprendre, ou au moins d'essayer de comprendre, ou au moins de se poser des questions. Et on avait vraiment l'impression d'une espèce de travail en commun, quoi, pour approcher le mystère de cette histoire. Mystère qui n'a pas cessé de se dérober, du reste. Non pas spécialement parce que Roman était dissimulateur, à mon sens, mais ça c'est uniquement une impression que je livre. À mon sens, il était aussi sincère qu'il pouvait l'être, c'est-à-dire qu'il s'efforçait de dire la vérité, mais en même temps, je pense qu'il y a une vérité de cette histoire qui lui échappait et lui échappe autant qu'à nous. Donc après ce procès, j'ai encore essayé d'écrire, j'ai essayé de mettre en forme toute cette masse d'informations que j'avais rassemblées. J'avais par ailleurs un petit peu fait une espèce de petit travail d'enquête personnelle dans la région où ça s'était passé auprès de ses amis, de son entourage, de l'espèce de petite communauté du pays Gex dont sa femme et lui étaient des figures très, très estimées. J'ai essayé d'écrire tout ça, j'y suis pas arrivé, j'ai abandonné, j'ai repris. Enfin, si vous voulez, ça a été un processus très, très lent et laborieux et je dirais... pardonnez-moi ce que ça a d'emphatique, mais assez douloureux. Enfin, c'était le fait est qu'on ne s'approche pas impunément quoi, d'une telle histoire. C'est quelque chose qui vous secoue et qui vous atteint très, très profondément. Et je dirais que j'ai été finalement... Là, je fais un bond en avant chronologiquement, mais que j'ai été somme toute très touché de l'accueil qu'a reçu ce livre en m'apercevant au fond que les questions qui paraissent somme toute très... très singulière et très extrême qu'il soulève étaient des questions qui au fond touchait pratiquement tout le monde. C'est ça qui m'a énormément ému dans la réception qu'a eu ce livre, tout à fait au-delà, si vous voulez, de l'amour propre d'écrivain qui est toujours content quand on lui dit que son livre est bien, ce qui est bien sûr, ça c'est autre chose. Mais là, j'avais l'impression d'une certaine manière que ça légitimait l'entreprise, le fait que ça, au fond, que ça renvoyait des lecteurs très très divers, d'horizons et d'intérêts très très divers, à des espèces de questions à la fois énormes et très et ordinairement très enfouies, touchant quoi, touchant l'identité, touchant le décalage entre l'image que nous donnons aux autres et ce que nous savons ou pensons être, enfin disons l'image qu'on peut avoir de soi dans les, je ne sais pas, au cours d'une nuit d'insomnie ou dans un moment de dépression ou des choses comme ça, que ça touchait au fond cette espèce d'absence à soi et au monde qui est une chose qui j'ai l'impression existe chez chacun d'entre nous. La plupart d'entre nous savons tenir ça à distance. On a l'impression, au fond, chacun d'entre nous, je pense, dispose d'une espèce de petite fenêtre privée sur cette espèce de gouffre, et on s'en approche le moins possible. Il me semble que c'est quelque chose de très, c'est un moteur très actif dans nos vies, le fait à la fois que ça existe et qu'on essaye de fuir ça autant qu'on peut. Et au fond, le projet de ce livre, c'était un peu de conduire le lecteur devant cette fenêtre et de lui dire, bah regardez. Le fait que, enfin, beaucoup de lecteurs aient accepté de regarder ça m'a très profondément touché.
On va revenir à cette question du gouffre, en effet, n'est-ce pas, la fenêtre sur le gouffre, tout ça. Mais vous avez dit quelque chose qui me surprend. Il a hésité lui-même. Enfin, ce livre est fait d'hésitations, n'est-ce pas, réciproques. Et puis finalement, au bout de 3 ans, il a lu La classe de neige. Il vous a répondu et il a accepté que vous écriviez ce livre.
Il a accepté. Voilà. C'était pas. La question ne se posait pas absolument dans ces termes.
Il a accepté de répondre à vos lettres,
oui, c'est ça.
D'avoir un dialogue avec vous, oui. N'est-ce pas ? Et il vous a laissé écrire ce livre. Il n'a peut-être pas la possibilité de vous en empêcher, mais enfin, il n'a pas contrarié votre intention de le faire.
Il ne l'avait pas, effectivement, voilà. Mais s'il avait exprimé le désir que je ne le fasse pas, je ne l'aurais effectivement pas fait.
Oui. Et donc, vous dites, je ne sais pas pourquoi. Au fond, il avait envie que ce livre s'écrive, quoi. Vous dites, je ne sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas posé quand même la question pourquoi, au fond,
pourquoi
n'était-il pas hostile à la publication, au travail que vous faisiez et à la publication d'un livre sur son affaire ?
Alors, il y a deux réponses à ça qui ne sont pas d'ailleurs exclusives l'une de l'autre. La première, c'est il s'agit d'un personnage enfin atteint d'un narcissisme pathologique, en conséquence de quoi, si horrible que soit son histoire et si peu flatteur qu'il soit son rôle, ça lui fait plaisir qu'on parle de lui et c'est d'être le héros d'un livre, comme etc. Ça, c'est une première, c'est une première réponse. Je pense que c'est pas faux, que c'est pas suffisant. Il y a une seconde réponse, c'est que je crois que ce qui s'est passé pour lui, pas seulement les crimes, mais tout ce qui s'est passé avant, la façon dont il s'est enfoncé dans ce mensonge et a emprunté cette espèce de... Vous savez, sa vie se déroule comme une espèce d'autoroute où on néglige les unes après les autres toutes les portes de sortie, toutes les bretelles de sortie, jusqu'au moment où on arrive au moment où il n'y a plus de sortie possible. J'ai l'impression que pour lui, ça reste un mystère. Qui s'interroge constamment là-dessus, qu'il avait une espèce d'espoir que les psychiatres qui l'ont examiné et très très longuement interrogé, il y a eu 4 collèges de psychiatres qui l'ont interrogé, qui ont fait un travail très fouillé. Hein. Il avait l'espoir, au fond, que les psychiatres lui diraient la vérité. Au fond, c'est quelqu'un qui voudrait savoir la vérité sur lui. Et cette vérité se dérobait, selon lui, dans l'approche psychiatrique, si sérieuse qu'elle ait été. En sorte qu'au fond, je pense qu'il s'est dit qu'un livre, écrit par un écrivain dont, pour avoir lu un de ses livres, il lui portait de l'estime, que peut-être que j'allais mettre au jour une vérité sur lui, quoi, quelque chose qu'au fond, il allait se comprendre. Je crois que c'est plus profondément, si vous voulez, enfin, les deux doivent aller de pair, mais si vous voulez, l'explication purement narcissique, purement de désir qu'on parle de soi est sans doute pas fausse, mais elle est, c'est pas tout. Je crois qu'il y a vraiment cette espèce de désir d'apprendre la vérité sur soi, chose qu'au fond, il attend toujours de l'extérieur. Il était très frappant au procès que, quand on interrogeait, lui-même se référait même pas tant à ses propres souvenirs ou à ses, tout qu'à son dossier, qu'au dossier d'instruction qu'il connaissait par cœur et qu'il citait. Comme si le dossier, ce qui avait pu être dit de lui, avait recouvert ce qui était sa connaissance de première main de lui-même. Et je pense qu'au fond, il attendait ça de moi. Je sais que de ce point de vue-là, tout en trouvant le livre honnête, il en a été déçu parce que moi-même, je n'ai pas pu résoudre ce mystère. Rien dans les faits, pratiquement, de cette histoire, rien n'est mystérieux. Il y a un ou deux points de doute sur dans le détail desquels on ne va pas entrer, mais tous les faits de cette histoire sont connus. On sait comment ça s'est passé, on sait quelles étaient les combines financières qui lui ont permis matériellement de vivre sans travailler. Tout ça a été dépiauté dans le détail par l'instruction et il n'y a pas, pratiquement pas de zone d'ombre. Mais quant à expliquer comment quelqu'un s'engage là-dedans et ne peut plus en sortir et s'enferme là-dedans, quant à expliquer cette espèce de mystère-là, ça me paraît de la nature d'une telle explication de se dérober. Si vous voulez, on touche à une espèce de noyau dur de mystère qu'il y a chez tout le monde. Et c'est pas une énigme, ça a une clé, un mystère, ça en a pas. Et là, on est devant un mystère. Je pense que c'était ça qu'il attendait de moi et ça qu'il n'a pas eu, qu'il ne pouvait pas avoir, effectivement.
Oui, rien n'est mystérieux, sauf en effet, sauf l'essentiel, quoi.
Oui.
Et alors, il y a des choses mystérieuses, en effet, cette trajectoire. Comment peut-on, à partir d'un mensonge, comme vous le rappelez, assez anodin, hein, moi, en effet...
Et sur lequel, pendant très longtemps, il était très facile de revenir.
Bien sûr.
Si vous voulez, ça ne conduisait pas fatalement à la tragédie. C'est le fait de s'y enferrer, parce que... Vous n'allez pas passer un examen, vous raconter à vos parents, à votre petite amie et à vos amis que vous l'avez eu. Bon, ça veut dire qu'il y a un moment où il y a une épreuve d'amour propre quand on doit avouer qu'on a menti. Peut-être même qu'on peut s'arranger pour ne pas le dire, mais pour, je ne sais pas, négocier ça l'administration de l'université. Enfin, je ne sais pas, tout ça est possible. Par la suite même, enfin, il aurait pu aussi, je ne sais pas, s'en aller tout simplement, enfin, changer de vie. Enfin, il y avait un tas de choses possibles. Et pourtant, il s'est enfoncé vraiment à chaque fois, en accumulant les mensonges, en rentrant ensuite dans l'illégalité, dans des combines non seulement illégales mais assez crapuleuses, et donc beaucoup plus inavouable qu'un mensonge puéril de départ. Mais il s'est complètement enferré là-dedans jusqu'au point où il n'a plus du tout pu en sortir.
Il y a autre chose qui est très mystérieux. C'est non seulement qu'il s'enferme lui-même, parce que là, en effet, on touche à l'énigme de sa propre personnalité. Mais tout à l'heure, vous parliez aussi de l'apparence sociale. Et ce qui est mystérieux, c'est quand même l'absence de curiosité de l'entourage. Comment est-ce qu'on peut duper à ce point non seulement sa famille, ses proches amis, mais en fait tous les gens que l'on connaît, sans d'ailleurs qu'on ait l'impression qu'il fait des efforts considérables. Bon, à ses parents, il envoie une photographie de l'OMS en cochant une fenêtre, ça c'est mon bureau. Mmh. Pour sa femme, il part le matin, il revient le soir, il va à des séminaires à l'étranger, etc.
Et ça a duré pendant
20 ans. Comment peut-on, à ce point, n'est-ce pas, duper tout un entourage social? Il faut vraiment que quelques signes suffisent à épater les gens, c'est ça?
Il y a aussi que... Enfin, cette histoire aurait dû 100 000 fois être éventée. Enfin, il suffisait d'une rencontre entre deux personnes à qui il avait dit des choses différentes ou des choses comme ça. Enfin, ça aurait dû tout le temps arriver. Il est stupéfiant, enfin, pour l'anecdote, que... un homme qui travaille pendant 10 ans sans que jamais sa femme ait un numéro de téléphone auquel l'appeler au bureau en cas, je ne sais pas, d'accident, de problème avec les enfants, quelque chose comme ça, on se dit que ça n'existe pas. Néanmoins, ça a existé. C'est comme ça que ça s'est passé. En plus, cette histoire a pris fin en 93, c'est-à-dire à un moment où les téléphones portables n'étaient pas, commençaient à peine à exister. C'est-à-dire qu'auparavant, il avait une espèce de système de boîte vocale fournie par les PTT, enfin un truc très, quelque chose de très rudimentaire, enfin de, qui est, rendait la communication assez compliquée. Et néanmoins, ça a marché comme ça. Alors, en effet, faire le procès de son entourage en disant quand même que ces gens étaient d'une incroyable absence de curiosité, d'attention, tout ça. Il me semble un peu facile de se dire que ces gens étaient tous des imbéciles ou des naïfs. On ne sait pas du tout si vous ou moi, à leur place, aurions été plus clairvoyants. C'est impossible à dire. Mais il y a quelque chose effectivement d'inexplicable là-dedans, dans le fait que, aussi dans l'idée d'une vie conjugale qui a duré une bonne dizaine d'années, 10 ou 12 ans, avec une femme qui ne s'est apparemment jamais doutée de rien, sauf peut-être dans les tout derniers jours, ce qui a sans doute précipité la catastrophe, c'est ahurissant. Néanmoins, c'est ce qui s'est passé. Alors, vous voyez, on écrit un livre là-dessus, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas répondre, on ne peut que raconter de la façon la plus détaillée possible, essayer de rendre ça le plus sensible possible, mais on ne peut pas expliquer ce qui ne s'explique pas. Et c'était un des enjeux bizarres de ce livre, qui au fond, si ça avait été une fiction que j'avais écrite, j'aurais dû tout le temps me dire non, ça tient pas debout comme ça. Il aurait fallu trouver des aides, enfin soumettre ça à un minimum de vraisemblance qui n'apparaît pas dans cette histoire réelle.
Il y a quelque chose qui est troublant quand même, c'est qu'en effet, on imagine assez bien à quel point un écrivain, un romancier peut être fasciné, subjugué par une telle histoire, par tout ce qu'elle comporte en effet d'incompréhensible, d'énigmatique, par ce nœud de mystère dont vous parliez tout à l'heure, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi quand même l'horreur du crime, on peut pas l'effacer. Est-ce que vous n'avez pas été à diverses reprises ? Est-ce qu'une partie de vos hésitations de
horrifiée par ça,
horrifiée par ça
sûr,
et par
bien sûr. Oui, c'est non mais c'est vous voulez c'est quand même épouvantable d'écrire sur une histoire comme ça et vous me direz que personne m'obligeait. Alors, emphatiquement, je dirais un peu que si, en ce sens que je dirais que j'ai plutôt freiné des cas de fer pendant tout le temps où j'ai tourné autour de ce livre pour ne pas l'écrire. Enfin, je l'ai abandonné à plusieurs reprises en me disant mais non seulement je ne vois pas comment le faire, mais en plus, enfin, c'est horrible. J'ai pas envie d'être là-dedans. J'ai pas envie de passer mes journées à raconter ça. J'ai pas envie de retrouver mes enfants le soir en ayant passé la journée à raconter l'histoire d'un type qui tue les siens. Enfin, tout ça est extraordinairement pesant. Et je vous dis, non seulement ça n'a pas été une partie de plaisir de faire ce livre, mais j'ai vraiment essayé à plusieurs reprises de ne pas le faire, enfin, de m'y dérober. Et pourtant, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui demandait à être raconté là, qui dépassait ce que cette histoire particulière a d'absolument extrême, qui touchait à quelque chose de beaucoup plus universel et qui demandait à être raconté et que bizarrement, enfin, ça, il m'était échu de la raconter, quoi, d'une certaine façon, en sorte que j'ai fini par me dire bon, faut y aller, quoi, faut le faire. Mais ça n'a vraiment pas été de gaieté de cœur et pas sans tentative de moi justement prendre toutes les bretelles de sortie possibles. Mais c'est pareil, je ne les ai pas prises.
Et un des obstacles, justement, à un certain moment, vous lui écrivez à ce sujet, vous renoncez à faire le livre alors que vous avez accumulé toute la documentation nécessaire, c'est que vous ne savez pas. Comment vous impliquez vous-même dans le récit? Vous dites que vous ne pouvez pas en faire un récit objectif, à supposer que ça existe, que vous sentez la nécessité de vous inscrire vous-même dans cette histoire, mais que vous ne savez pas comment le faire, que vous ne pouvez pas le faire, et donc vous préférez renoncer au projet. Et comment avez-vous réussi à vous inscrire dans cette histoire?
Ça, c'est ce qui s'est fait le plus tard, au fond, la dernière année de travail là-dessus, où j'avais énormément écrit en essayant, effectivement, il y a eu un premier temps où j'avais essayé d'écrire ça de façon romanesque, en me sentant libre par rapport à l'histoire. Un deuxième temps où j'ai essayé, ayant réuni énormément d'informations, de choses comme ça, j'ai essayé d'écrire de façon objective. Alors, vous soulignez effectivement qu'est-ce que ça veut dire d'être objectif, éventuellement un dossier d'instruction, cet objectif. Mais à partir du moment où on écrit, où on est dans une narration, etc., on n'est pas objectif. Mais disons, en essayant au moins de donner l'illusion de l'objectivité, dont je me figurais naïvement que j'y parviendrais en m'effaçant, moi, du livre. Et j'y suis jamais parvenu. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte d'une chose absolument évidente, mais il m'a fallu longtemps pour m'en rendre compte, c'est que, paradoxalement, une certaine objectivité ne serait possible que si j'acceptais de m'impliquer entièrement là-dedans et de dire, bon, ça n'est pas la vérité sur l'histoire de Jean-Claude Roman que je vous livre là, c'est ce à quoi, moi, j'ai pu avoir accès, je veux dire, non seulement factuellement, mais c'est, de toute manière, ça passe par le prisme de mon imagination, de mes doutes, de mes inquiétudes là-dessus. Donc, j'avais l'impression qu'il fallait que j'en fasse confidence au lecteur, d'une certaine manière, que je dise au lecteur que c'était moi qui lui racontais ça, et que c'était, en fait, beaucoup plus honnête que de tenter de lui faire croire qu'il avait la véritable histoire. Et donc, j'ai effectivement décidé, et à partir de là, ce livre qui avait été si, non pas difficile, mais tout simplement impossible à écrire, s'est écrit presque d'une traite, à partir du moment où j'ai décidé de l'écrire, si je peux dire, à la première personne, la première personne étant évidemment la mienne, en disant dès le début comment j'avais été... J'avais pris connaissance de cette histoire, comment j'avais envisagé d'écrire dessus, quels avaient été les doutes, les hésitations, les angoisses que j'avais pu avoir à ce sujet. Et donc, en livrant ce que je savais de cette histoire à travers ça.
Vous parliez tout à l'heure d'une fenêtre sur l'innommable, ou je ne sais plus quelle expression vous avez utilisée. Enfin, ce qui est quand même au cœur d'une histoire comme celle-là, c'est le mal. Vous avez choisi comme titre l'adversaire, et l'adversaire désigne le diable. Alors, en effet, comment s'approche-t-on du mal absolu, qu'on lui donne le visage du diable ou toute autre forme, sans toutes ces hésitations que vous avez décrites, et tous ces scrupules, et toutes ces tentations de renoncer à un pareil projet.
Il y a une chose qui est très troublante là-dedans, c'est qu'en effet, on peut considérer ce personnage, ou ce qui a mu ce personnage, comme une figure du mal. Mais ce qui est troublant, c'est que vous voyez, on associe très souvent le mal à la méchanceté, et c'est pas de la méchanceté qu'on a affaire là. On peut dire un tas de choses de ce Jean-Claude Roman, enfin de ce personnage là. C'est pas spécialement un homme méchant, en ce sens que ce n'est pas quelqu'un qui a du goût pour la souffrance des autres, encore moins que pour la sienne. Mais il n'y a pas le désir de faire souffrir, il n'y a pas tout ce qu'on associe, vous voyez, à la méchanceté, à la cruauté, à des choses comme ça qui sont là au fond la première image qu'on a ordinairement du mal. Et il me semble que le visage du mal qui se découvre là, c'est celui d'une espèce de... Je ne vois pas d'autre mot, même s'il est un peu insuffisant ou flou, que absence. Une espèce d'absence à soi, d'absence au monde, d'incapacité d'habiter sa propre vie, son propre corps. Et ça me paraît bizarrement le mal absolu. Même si justement, quelqu'un qui est agi par ça, justement, n'est pas spécialement un méchant homme. Mais pourtant, il y a quelque chose qui est ce qui nous entraîne dans les plus grands abîmes, à mon avis, c'est ça. Je ne veux pas du tout sous-estimer la capacité de nuisance et d'horreur de la cruauté, mais ce n'est pas à ça qu'on a affaire là-dedans. Sinon, c'est à une figure différente, quoi, et à mon avis, plus profonde du mal, et qui nous habite tous sans doute davantage. Je pense, dont on peut se sentir plus proche.
Oui, mais alors l'adversaire, qui est l'adversaire?
Donc l'adversaire auquel se réfère le titre, c'est donc un des noms qu'on donne à la dans la Bible au diable. C'est la traduction qu'on donne généralement dans les Bibles françaises du mot Satan, qui n'est pas un nom propre. Ce qui n'est pas un nom propre, vous voyez, comme, je ne sais pas, Belzébuth ou Lucifer, qui est un nom commun. Le Satan, en ce sens, si vous voulez, qui est le malin, dans le sens où c'est celui qui ment, celui qui est le menteur. Et bon, en donnant ce titre au livre, même s'il y a... Il ne s'agissait pas de pointer Jean-Claude Roman en disant ce type est le diable ou l'adversaire, mais il me semblait que cet homme, enfin, en tout cas, c'était cet adversaire-là qu'il a affronté toute sa vie, et auquel, en somme, moi, je me suis senti confronté en écrivant ce livre, et auquel j'ai eu l'impression, en le donnant à lire aussi, de confronter le lecteur, en sorte que ça a été pour moi une expérience d'écriture très, très, très troublante et difficile, et je pense que c'est une expérience de lecture troublante aussi, effectivement.
Puisqu'on bascule quand même de la psychologie dans la métaphysique, là, n'est-ce pas? Quand vous dites c'est pas un homme méchant, en même temps que bon, ça en est dans la psychologie. On parle du mal, on est dans un autre domaine, et effectivement, on peut être habité par le mal sans être méchant. Alors il faut.
Je veux dire que le mal ne paraît pas réductible à la méchanceté. Non, enfin, ça n'est qu'un des cantons du mal.
Et alors il y a quelque chose qui est là aussi très énigmatique, c'est donc la partie de sa vie qui suit le procès, la partie de sa vie qu'il passe et qu'il continue de passer en prison, et cette conversion, si l'on peut dire, n'est-ce pas, religieuse, qui d'ailleurs vous-même vous laisse perplexe.
Pantois même.
Oui, pantois. Qu'est-ce qui se passe là, alors?
Disons que depuis qu'il est en prison, Roman dit avoir retrouvé la foi, et disons que c'est en termes religieux qu'il donne sens à, je dirais pas sa vie, mais sa survie. Donc il estime qu'il est sur un chemin d'expiation, de rédemption, et que il fait même état à demi-mot d'expérience mystique. Il est très, enfin, autant qu'il le soit, autant qu'on le soit en prison, on est très très isolé, mais il est entouré de deux ou trois personnes qui sont des visiteurs de prison catholiques, très profondément chrétiens, et qui donc l'assistent, le soutiennent, et ont une très grande confiance, voire même foi, dans cette conversion. Et donc le tiennent, ça serait caricatural de dire qu'ils le prennent pour un saint, mais enfin, ils le voient comme quelqu'un qui est vraiment, qui après avoir... vécu quelque chose d'absolument terrible, commis des crimes terribles dont il ne se dissimule pas l'horreur, et sur une espèce de chemin vers Dieu, vers la lumière, tout ça. Alors, bon, face à ça, qu'est-ce qu'on peut penser? Moi, je n'en sais rien, et la fin du livre que j'ai écrit ne fait que, je dirais que mettre en scène cette perplexité qui est la mienne et dont j'essaye de transmettre au lecteur. Parce que, évidemment, il y a une... On peut se dire, et ça paraît très plausible, que... on peut se dire, d'abord, d'une part, dans la situation où il est, à partir du moment où il ne se suicide pas, on ne voit pas tellement ce qu'il peut faire d'autre que se raccrocher à ça. On peut dire plus durement que cet homme a menti toute sa vie, et qu'il est dans une espèce d'ultime mensonge, pas forcément qu'il fait aux autres, mais qu'il se fait à lui-même. Il ne s'agit pas nécessairement de tromper les autres, c'est-à-dire de tromper ces deux ou trois visiteurs de prison qui sont des gens de très bonne volonté, mais vous voyez, se raconter encore des histoires, et comme si, après avoir joué pendant 18 ans le rôle de l'étudiant modèle, puis du chercheur international, etc., somme toute, jouer maintenant celui du criminel mystique sur le chemin de la rédemption. On peut dire donc qu'il s'agit d'une imposture supplémentaire, et que là, en plus, il s'est trouvé une espèce de forteresse absolument imprenable, parce que là, de là, personne ne pourra jamais le débusquer. Auparavant, vous voyez, le mensonge sur sa vie professionnelle, c'était quand même à la merci des faits, de la réalité, de l'épreuve de la réalité. Alors que là, ça se passe entre Dieu et lui. Il est tranquille, d'une certaine façon. On peut se dire ça. Ça me paraît, en termes psychologiques ou psychiatriques, éminemment plausible. Par ailleurs, on peut se dire qui sait. Après tout, qui sait. Et là, la question est, enfin, renvoie à une autre, c'est de savoir, je veux dire, si on croit à une rédemption possible. Et je vous dirais, enfin, là, pour ma part, je n'en sais rien. Pour ma part, je me sens face à ça totalement agnostique. Quoi, j'ai l'impression que la position que j'essaye de tenir dans ce livre, à la fin, et qui est difficile à tenir, enfin, qui est celle-là, celle de dire, bon ben voilà, ce type pense ça, c'est ce qu'il il estime que là, malgré tout, enfin, c'est désormais le Christ qui le guide, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je veux dire, dire simplement, bon, bah, moi j'y crois pas, ok, très bien, on peut dire ça, je dirais que ça ne règle le problème que pour nous, mais à partir du moment où on essaye de l'approcher, lui, on est devant, je dirais, un autre gouffre, un autre énorme point d'interrogation, et on ne peut que, je dirais, il s'agit pas de, on peut pas répondre à cette question, on ne peut que encadrer ce point d'interrogation et le rendre sensible au lecteur autant qu'il est possible.
Oui,
c'est une chose qui a, pardonnez-moi,
oui, je vous en prie.
C'est une chose qui a troublé pas mal de lecteurs de ce livre, enfin, dont on m'a un peu fait le grief. Comme si je, au fond, je m'échappais un peu moi dans une espèce de Alors, ce que je peux répondre à ça, c'est d'une part que, à vrai dire, c'est pas moi qui plaque ce problème sur cette histoire, puisque c'est lui qui introduit cette problématique-là. Donc, il faut bien que, racontant l'histoire, vous me direz que je réponds, j'aurais pu interrompre le livre après les crimes ou après son procès et ne pas me soucier de ce qu'il est devenu après. Il me semble qu'à partir du moment où mon projet n'était pas de raconter un fait divers simplement, mais d'essayer de toucher à une énigme humaine, donc ce qui s'est passé après a pour moi autant d'importance. Et il m'aurait paru absurde de ne pas en faire état dans le livre. Mais j'ai l'impression d'une part que c'est pas moi qui vous voyez, greffe artificiellement cette question-là sur le livre, puisque c'est lui qui la pose. Et deuxièmement, que même s'il la posait pas, à vrai dire, je l'aurais posé quand même. Enfin, parce que on peut pas toucher à une telle histoire à partir du moment où on considère. Parce que bon, c'est très facile de se dire une histoire comme ça. Soit on s'en détourne, ce qui paraît humainement, enfin, tout à fait compréhensible. Enfin, je veux dire, personne n'est obligé d'aller regarder ça en face. On a d'autres choses à faire dans nos vies que d'aller regarder une horreur pareille. En même temps, il me semble que c'est une des vocations de la littérature, pas la seule, Dieu merci, mais c'est une des vocations de la littérature d'aller regarder ça, enfin d'aller regarder d'aller essayer d'approcher certaines des régions les moins explorées, les moins fréquentées, enfin de l'âme humaine, et des régions dans lesquelles il y a des hommes qui vivent. Enfin, cet homme a vécu là-dedans, dans cet enfer-là, et il y est toujours. Donc, il me semble qu'il y a une, enfin, qu'on n'a pas à justifier d'aller écrire là-dessus à partir du moment où on est écrivain. Encore une fois, on n'est pas forcé de le faire, mais on peut le faire, et la littérature, ça sert à ça aussi. Et à partir du moment où on le fait, ça me paraît difficile de ne pas, à un moment ou à un autre, poser la question dans ces termes-là. J'y peux rien, si vous voulez. Je vais pas. Il s'agit évidemment pas de me comparer à d'aussi grands écrivains, mais ces histoires-là, qui est-ce qui y touche? C'est effectivement c'est Dostoïevski, c'est Bernanos, mmh. c'est des auteurs comme ça. C'est-à-dire que
on pense à Bernanos continuellement.
Oui, donc encore une fois, il n'y a aucune comparaison de mérite littéraire, hein, bien entendu. Mais forcément, ce type de quand on va dans ce type de zone de l'esprit, de l'âme humaine, ces questions-là surviennent, quoi. On ne peut pas faire autrement.
Mais je reviens au reproche amical que vous ont fait certains lecteurs.
Et c'est ce que j'ai. Moins amical, d'ailleurs.
Moins amical. Et moi, c'est ce que vous avez anticipé sur la question que j'allais vous poser. Parce que, bon, il y a cette conversion qui, après tout, appartient tout à fait à la tradition chrétienne la plus authentique. Et je comprends que l'entourage, enfin, les visiteurs, tout ça, bon, dont certains peuvent sourire. rire un peu et prendre pour des naïfs, mais non, mais après tout, oui, s'ils sont vraiment chrétiens, il est tout à fait normal qu'ils considèrent qu'il y aura plus de joie au ciel pour un seul coupable qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. On sait que entre le crime et la sainteté, la frontière est très floue. On sait que l'Église, il y a un procès en canonisation pour un des derniers guillotinés.
Ah oui ?
Oui, bien sûr.
Oui.
Un Français dont le nom m'échappe, là. Donc
Jacques Fesch, sans doute.
Jacques Fesch, exactement. Jacques Fesch.
Son nom,
Jacques
Fesch,
oui, Jacques Fesch. Bon. D'un côté, cette hypothèse-là est tout à fait vraisemblable. De l'autre, en effet, un homme qui a vécu dans le mensonge, comme vous le disiez, toute sa vie, peut continuer, bien entendu, à mentir et à se mentir surtout à lui-même. Mais alors, c'est vrai qu'à partir du moment où l'écrivain dit qu'il ne peut écrire son livre, il ne parvient à écrire son livre que quand il s'engage dans le récit lui-même, on aurait aimé qu'il s'y engage jusqu'au bout. Et à la fin, devant, en effet, cette ultime incertitude, qu'il nous dise de quel côté il penche, lui, n'est-ce pas?
Mais oui, je comprends, mais le problème, c'est que j'en suis...
Vous ne penchez pas.
C'est que je ne penche pas, non, ouais. C'est que là, je me sens vraiment agnostique, quoi, face à cette... au sens strict du mot. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je peux que essayer de montrer ce qu'on peut penser. Moi, je suis devant une espèce de trou noir, quoi. Et effectivement, c'est laisser le lecteur devant.
C'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'on sort infiniment troublé de la lecture d'un livre comme celui-là. Et puis c'est un trouble qui ne se dissipe pas rapidement.
C'est difficile. Enfin, j'ai pas en plus envie d'en rentrer dans la confidence personnelle, mais c'est quelque chose enfin qui vous qui remue tellement de choses. Et enfin, le fait, si vous voulez, d'avoir ça sous les yeux pendant plusieurs années de sa vie, tout en continuant à mener sa vie normale, à travailler, à avoir une vie de famille, etc. Mais d'avoir ça sous les yeux, de se mettre cette espèce d'objet psychique sous les yeux, est extrêmement éprouvant. Donc, je ne suis pas tout à fait capable de répondre à votre question, parce que je ne sais pas bien comment j'ai l'impression qu'il y a certainement des espèces d'effets de ce travail-là et de ce que ça a représenté pour moi qui se manifesteront avec une espèce d'effet retard, quoi. Pour l'instant, il y a une espèce de soulagement d'être sorti de cette espèce de long tunnel, doublé du... Je le disais tout à l'heure, doublé d'un soulagement que m'a procuré l'accueil du livre. Je vous disais, c'est quelque chose de tout à fait au-delà de l'amour propre d'écrivain. C'est l'impression que cette chose qui, moi, m'avait tant troublé, troublait et touchait tout le monde. Comme si, du coup, le fardeau était partagé à ce moment-là. Et donc, c'était extraordinairement... alors, si vous voulez, c'est pas une question de chiffre de vente ou de choses comme ça. Il n'y a pas besoin que ça soit partagé avec des dizaines de milliers de lecteurs. Il suffit de quelques-uns. Mais le fait que c'était que les gens qui l'ont lu en ont été vraiment touchés et remués, et que ça a posé pour eux des questions très intimes, enfin, tout ça. Et comment dire aussi que l'entreprise ne suscitait pas de réaction de rejet ou très peu. Pour moi, c'était assez apaisant, je dirais. Ensuite, vous voyez, sur les effets retard, je sais pas trop. Tout simplement, je sais, pour la suite de mon travail, de toute manière, je suis habitué à être assez lent entre un livre et l'autre. Mais actuellement, j'ai vraiment aucune idée de ce qui viendra ensuite. Je voudrais vraiment avoir tourner cette page-là, effectivement, j'en ai assez d'écrire des livres, enfin, qui tournent autour, effectivement, de troubles d'identité, d'histoires de folie, d'enfermement, d'enfermement psychique, de choses comme ça, à quoi je suis revenu, effectivement, très obstinément et au fil de plusieurs livres. Là, j'ai vraiment l'impression que ça suffit. Mais qu'est-ce qui vient après? J'en sais rien. Je verrai bien. Je sais pas quand. Je sais.
Y a-t-il dans le public des questions pour Emmanuel Carrère?
Oui, car il reste quand même les beaux-frères, une belle-sœur.
Il y a les deux familles, il a fait la sienne et sa belle famille.
A réagi à votre livre ? Vous avez eu des contacts après ?
Non, j'ai pas. À vrai dire, eux, je ne les ai pas vus. Je les ai vus au procès. Oui. Mais je suis pas, ils font pas partie des quelques personnes que je suis allée voir, tout simplement parce que j'en ai pas eu le courage.
Oui.
Non, je m'en sentais pas d'aller effectivement voir ces gens suffisamment éprouvés comme ça, dont je savais ce qu'ils avaient à dire, ils l'avaient dit au procès, etc. Ça suffisait. Je n'ai vu finalement que des gens, je n'ai eu de relations personnelles qu'avec des gens qui faisaient partie de son cercle d'amis. Dans sa vie sociale, etc. Donc, pour qui ça de toute manière était une épreuve, c'est quelque chose qui les a fissurés, ces gens-là. Mais c'était quand même moins intime. J'avais moins l'impression de toucher à une douleur.
Vous savez qu'il y a eu un reportage.
Oui, je l'ai vu, bien sûr. Oui, je l'ai vu. Je l'ai
très
vu.
Bien fait, d'ailleurs. Hein? Très bien fait.
Oui, qui était, comme moi, j'ai trouvé très intéressant, effectivement.
Il avait aussi grugé quand même pas mal la belle famille.
Oui, et effectivement, les gens qui apparaissaient dans ce reportage étaient essentiellement la belle famille, voilà. Puisque sa famille, à lui, la famille Roman, n'avait pas accepté de répondre aux questions. Non plus, d'ailleurs, que les amis que j'avais vus, moi, dans le sens que c'était quelque chose qui complétait. Moi, j'avais vu certains de ses amis. Vous savez, au début du film, il y a une voix off qui est celle du médecin. Qui est le protagoniste, enfin qui sert de, disons, de point de vue au début de mon livre. Cette voix off est celle, vous voyez, c'est un comédien dans le documentaire qui lit les dépositions de cet homme, avec qui est en fait moi la personne avec qui j'ai eu les relations les plus proches, ça serait beaucoup dire, mais enfin on s'est vu deux ou trois fois assez longuement, on a parlé, je pense qu'il m'a parlé avec assez de confiance.
Vous avez changé son nom.
Oui, j'ai changé son nom à sa demande parce qu'il souhaitait pas figurer sous son nom. D'une façon générale, j'ai changé quelques noms, ceux des personnes dont j'avais l'impression qu'à un titre ou à un autre, ils pourraient souffrir d'être mentionnés. À ce compte-là, me direz-vous, j'aurais dû également changer le nom de la famille Roman, qui est épouvantablement affectée par cette histoire. C'était malheureusement impossible parce que cette histoire est suffisamment... Je pouvais pas décider d'à partir du moment où je racontais cette histoire exactement, c'était absurde de dire que ça s'appelait l'histoire Morant plutôt que l'affaire Roman. Vous voyez, c'était ça. Ça aurait trompé, ça trompait personne, ça ne protégeait personne. Donc j'étais réduit à ça, effectivement. Mais donc, non, j'ai pas eu de réaction ni de sa famille à lui, ni de sa belle famille.
De lui, vous avez...
De lui, j'ai eu une réaction, oui. Oui, je suis allé le voir avant la parution du livre. Je lui avais dit d'accord, tout en lui disant que le livre était terminé et que je n'allais pas y changer une ligne, quoi qu'il me dise. Ce qui, pour moi, était essentiel, parce qu'il aurait pu parfaitement me faire des remarques absolument ponctuelles et exactes, du genre, à un moment, vous dites qu'il s'agit d'une voiture verte, mais c'était une voiture bleue, etc. Mais... Si je commençais à changer des choses comme ça, à sa demande, ça devenait tout autre chose. Ça voulait dire écrire un livre, enfin, un peu sous sa dictée. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Il y avait une séparation qui devait être faite. Je veux dire, si lui veut raconter son histoire, il peut le faire, mais je ne pouvais pas accepter que lui la raconte par ma plume. C'était pas possible. Enfin, c'était un autre projet et que j'avais dont il n'était pas question pour moi. Donc, c'était forcément quelque chose d'assez cruel pour lui. Et il en était conscient, hein, d'ailleurs, je lui avais dit de lui dire, voilà, vous lisez ça, mais maintenant que j'ai décidé de le faire paraître, ça va paraître tel quel. Et alors, bon, je suis allé le voir en prison quand il a lu ça. On a eu une conversation très très courtoise, comme est toujours la conversation. Enfin, j'en ai eu trois en tout avec lui. Parce que c'est un homme très contrôlé, enfin qui offre une apparence très très affable. Il y a étonnamment peu d'affect et d'intensité dans ces rencontres. Et au fond, il m'a dit ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que dans l'ensemble, il pouvait pas me dire, il jugeait que le livre était honnête, que j'avais fait un travail en m'efforçant de comprendre, en m'efforçant de, mais que bon, qu'il y avait des points sur l'affaire criminelle sur lesquelles il n'était pas d'accord, mais où il pouvait pas m'apporter la preuve du contraire, donc j'avais ok, n'en parlons plus. Mais que la chose qui lui était le point qui lui était pénible, difficile, c'est ce qui touche à sa foi, c'est justement le fait que je ne sois pas dans la même position que, disons, les visiteurs de prison qui ont une espèce de, je dirais, de foi absolue dans l'authenticité de sa foi. Je dirais pas dans sa sincérité, Parce que la sincérité et la vérité, c'est deux choses très différentes. Qu'il soit sincère, personnellement, j'aurais tendance à le croire. Mais on peut parfaitement être sincère et se leurrer. On peut parfaitement être sincère et se mentir à soi-même. C'est ce que la plupart d'entre nous n'arrêtons pas de faire dans notre vie, enfin, très, très souvent. Je veux dire, on est sincère et puis on se trompe. Donc voilà. Ce qui est raconté très en détail dans le livre, en fait, son train de vie reposait sur des escroqueries. Il était pendant le temps où il était étudiant, il était entretenu par ses parents, qui n'étaient pas des gens riches, qui étaient, vous voyez, c'était des forestiers du Jura, mais des gens qui avaient un petit peu d'argent, qui avaient un petit peu, et donc suffisamment pour entretenir un fils unique étudiant qui était la fierté de leur vie. Et ils se saignaient plutôt aux quatre veines pour que leur fils ne manque de rien et qu'il n'ait même pas à faire des petits boulots d'été pour compléter son... Bon. Ensuite, quand il est rentré dans une vie professionnelle, qui s'est marié et tout, et que donc cette vie professionnelle étant supposée être brillante, il n'y avait aucune raison qu'il soit toujours entretenu par ses parents. À partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a laissé entendre aux gens qu'il connaissait, sa famille, sa belle-famille, que travaillant en Suisse, il avait des possibilités de placement extrêmement avantageux. Sa famille, sa belle-famille, qui encore une fois n'étaient pas des gens riches, mais qui étaient des gens, vous voyez, qui avaient pris leur retraite, qui avaient eu des primes de retraite, une maison, des choses comme ça, enfin, qui avaient des économies. Souvent pas mal d'économies. Lui ont confié à chaque fois leurs économies pour qu'ils les placent en Suisse, ce qui était d'autant plus sûr. Non, mais c'est absolument dégueulasse, je suis bien d'accord. En plus, c'était des gens qui ne souhaitaient pas, vous voyez, qui voulaient faire fructifier l'argent pour leurs héritiers. Ils pensaient pas du tout à le reprendre. Donc, il a vécu là-dessus, il a dépensé. Oui, c'est un escroc. Vous avez l'air beaucoup plus choqué par ça que par le fait qu'il ait tué sa famille.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
On a l'impression que là, tout à coup, il y a une espèce d'indignation.
Il a tué sa femme et ses deux enfants, son père et sa mère, soit, mais il a escroqué.
Non, mais cela dit, je comprends votre réaction en ce sens que, et même pour lui, d'une certaine manière, ces choses-là sont plus embarrassantes encore, parce que le fait de tuer toute sa famille, qui est une abomination sans nom, mais c'est quelque chose qui relève de l'irrationnel. On a l'impression, là, on est dans le registre de la tragédie. Et donc, on a l'impression que quelqu'un qui est à la fois quelqu'un qui tue tout le monde dans une tragédie, enfin, est mu par des forces qu'il dépasse. Donc, on a l'impression de quelque chose de presque sacré. Alors que là, on est dans l'ordre de la petite crapulerie absolument répugnante. Pour lui, c'était très perceptible au procès. C'était des choses beaucoup plus difficiles à endosser. Parce que bon. Il y a d'autres, dans le détail de ces malversations financières, il y a d'autres petites escroqueries, enfin, particulièrement peu ragoûtantes.
Aujourd'hui, s'il vous plaît, vous avez cessé toute correspondance avec lui?
Pour le moment, oui. Cela dit, si lui, mais enfin, là, quand on s'est quitté en décembre dernier, on s'est quitté très poliment, vous savez, c'était un type très, donc en disant, on se donnera peut-être des nouvelles, quelque chose comme ça. Enfin, il était clair que quelque chose était fini là. Et moi, j'ai assez clairement, si vous voulez, je suis pas visiteur de prison. Je n'ai pas l'intention de porter toute ma vie Jean-Claude Roman, si vous voulez, ça y est, c'est clair. Si Jean-Claude Roman m'écrit, je lui réponds certainement. On peut pas non plus. C'est un être humain aussi. C'est des relations forcément compliquées. Vous voyez qui se noue comme ça. Enfin, où on a. À la fois affaire à quelqu'un avec qui on n'a pas envie d'un commerce très éternel, et en même temps, c'est un être. Il se trouve que je connais quelqu'un qui est en prison pour encore 15 ans, ce qui n'est pas une situation enviable, quoi qu'il ait fait. Donc voilà, il y a quand même aussi des relations humaines qui existent, même si j'ai toujours veillé à ce que ces relations restent relativement distantes, enfin, où il était clair que chacun était à une place. Mais tout de même, enfin, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué, quoi, ces relations-là.
Il y a un monsieur qui veut poser une question, là.
Oui, je ne sais pas si vous avez utilisé le dossier d'information de l'affaire Roman pour la rédaction du...
Le dossier d'instruction, vous voulez dire ?
Le dossier d'instruction, oui. C'est ça. Vous l'avez utilisé. Il y a une chose qui me paraît complètement dans cette histoire de mensonge qui vous l'avez dit, est presque incroyable, invraisemblable. Il me semble que l'épouse de Jean-Claude Roman,
oui,
de surcroît, était une femme, pour ainsi dire, du sérail, puisqu'elle était pharmacienne, qu'elle avait des contacts forcés avec le milieu médical, n'a pas pu ignorer tout à fait, je pense, la situation réelle. Enfin, c'est une conjecture de ma part, bien sûr, et je ne connais pas le dossier, bien entendu, et certainement le juge d'instruction s'est penché sur cette question. Mais peut-être y a-t-il eu dans ce couple, vous allez nous dire ce que vous en pensez, peut-être une sorte de comment dirais-je, de non-dit, de flou tacite convenu, où on n'évoquait pas ce mensonge qui était peut-être pressenti. Qu'en pensez-vous ?
Je suis assez d'accord avec vous. Alors, en ce qui concerne le dossier d'instruction et ce qui s'est dit au cours du procès, là, si vous voulez, elle n'est plus là pour dire quoi que ce soit. Les témoignages pouvaient être ceux d'amis proches, de ses frères, de sa mère. Tous disent il est inconcevable qu'elle se soit jamais doutée de quoi que ce soit parce que telle qu'elle était, elle n'aurait pas supporté ça une seconde. C'était une fille droite et sans détour. Elle n'aurait jamais trempé dans un tel mensonge. Elle aurait dit, je prends me divorçons, ou bien autre chose. Enfin, ou elle aurait dit, si elle savait, ça ne se serait pas passé comme ça. Disent-ils. Il est clair que ce qu'ils disent est aussi inspiré par l'affection qui lui portait. Et par le deuil là-dessus. Pour ma part, j'ai tendance à penser, comme vous, qu'il n'est pas possible que cette vie se soit déroulée sans quelque chose qui aurait été de l'ordre d'un soupçon qu'elle s'est arrangée de son mieux pour enfouir. Sachant en plus que, si vous voulez, ce qui est troublant, c'est que dès l'instant où il y avait soupçon, il était terriblement facile de vérifier. C'était terriblement facile. C'est-à-dire que à partir une heure après la tragédie, il a suffi aux gendarmes de passer un coup de fil pour que le château de cartes s'effondre. C'est-à-dire, ce qui est stupéfiant, c'est qu'en 10 ans, ce coup de fil n'ait jamais été passé. Il suffisait d'appeler l'OMS, d'appeler le standard de l'OMS, de demander le docteur Roman, pas de docteur Roman. Et là, ça a failli. Mais ça devenait, c'était vers la toute fin. Maintenant, de façon plus profonde, je tendrais à être d'accord avec vous sur le fait qu'une histoire comme ça ne peut pas s'être déroulée sans, vous savez, ce type de phénomène qui est, je pense, que ce que vous évoquez, auquel on a affaire aussi souvent dans les histoires d'inceste ou les choses comme ça. Vous savez, les gens, au fond, les gens savent tout en ne sachant pas et se débrouillent pour ne pas savoir. Il y a une espèce de déni, mais sur la base d'un pressentiment quelconque, ça me paraît pas possible autrement. Mais bon, vous voyez, d'un côté, il y a ce que disent les gens, qui est sans doute inspiré par l'affection et par le désir de présenter la défunte sous le jour le plus avantageux, enfin comme quelqu'un qui était d'une telle loyauté, d'une telle droiture qu'elle n'aurait pas. Ce qui est d'ailleurs pas incompatible, dire on peut être d'une très grande loyauté, d'une très grande droiture et en même temps avoir peur de savoir une vérité, ne pas pouvoir l'admettre. Précisément sans doute parce que si elle l'avait su, il aurait fallu en tirer les conséquences et que c'était inadmissible pour elle. Mais là-dessus, je suis d'accord avec vous, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas établir, quoi. C'est quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on pressent d'une histoire, quoi. Il y a quelque chose en lui qui n'a pas réalisé, effectivement. Et c'est là-dessus aussi, je dirais qu'il est difficile de faire un crédit total, de faire crédit à l'authenticité de sa foi, etc. Parce qu'il est clair qu'une foi qui ne repose pas sur la véritable réalisation de ce qui s'est passé, enfin une véritable prise de conscience de ces crimes, mais qui apparaît plutôt comme une espèce de refuge, précisément pour éviter d'en prendre conscience, n'a pas, même si elle est sincère, la même valeur qu'une foi qui reposerait sur, vous voyez, comme s'il était vraiment allé au fond. C'est d'ailleurs une des choses que disent les psychiatres dans leur rapport qui sont très, dans l'ensemble, très très mesurés. Mais les psychiatres disent qu'au fond, il a toute sa vie joué à cache-cache avec une espèce de dépression massive qui ne s'est jamais accordée d'une certaine manière, enfin qu'il a toujours fui, et que c'est ce qu'il continue à faire en prison. Au fond, et une dépression massive, ça voudrait dire ce que vous dites, c'est-à-dire prendre conscience de ce qu'il a fait réellement. Parce qu'au fond, c'est ça c'est une des grandes questions que ça pose, cette histoire, c'est la survie après avoir fait ça. Et au fond, on sentait très bien ça au cours du procès. au procès, les juges, enfin, les gens qui étaient chargés de le juger, au fond, implicitement, lui disaient « Mais attendez, regardez dans quelle situation vous nous mettez. On ne devrait pas avoir à vous juger. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous juger, c'est vous. Vous auriez dû vous suicider, c'est pas possible. C'est terrible à dire, mais c'était ça le sous-texte de ce procès. »
Ce qui est troublant, enfin, tout est troublant. Pour répondre à la question que posait madame, est-ce qu'il réalise, enfin, c'est le terme que vous avez utilisé, c'est que pendant le procès, il craque à certains moments. Vous dites qu'il est impassible, imperturbable. Il craque à diverses reprises, à deux ou trois reprises. Il s'effondre, il pleure. Mais c'est jamais à l'évocation du crime. C'est à l'évocation de tel ou tel épisode de l'enfance, quand on parle de son chien ou des choses comme ça. Enfin,
Mais oui. Il y a eu enfin deux effondrements, l'un tout de même qui était au moment où il a été évoqué l'assassinat de ses enfants, et l'autre très étrange, où il a un moment où il a été question d'un chien qu'il avait quand il était enfant, et où là on a l'impression que quelque chose voulait passer et n'est d'ailleurs pas passé. Enfin, qu'il a eu une espèce de mais vraiment d'effondrement très très impressionnant qui a laissé tout le monde vert dans la et voilà. Ça s'est arrêté là.
Oui, je voudrais simplement dire que nous vous avons invité au Jean Vigo et puis ici chez Mola parce que c'est avant tout un livre. Donc c'est pas le Madame, je suis désolé, mais c'est pas le parfait manuel du parfait escroc. Donc il n'y a pas toutes les recettes pour escroquer. Il y a des livres beaucoup mieux renseignés sur le sujet. Jean-Marie Plane parlait du mal de l'adversaire. C'est un livre qui fait du bien au lecteur, énormément de bien au lecteur. On en sort tout remué. Bien sûr, mais ça fait beaucoup de bien parce que enfin un livre qui laisse la part d'ombre et la part du mystère dont vous avez beaucoup parlé. Et on en a vraiment assez, enfin je parle pour moi, mais j'ai des amis, beaucoup d'amis qui sont dans la même situation. On en a assez des documentaires télé, des films et des livres qui veulent nous dire le fin fond de notre âme.
Tout expliquer, vous
voulez. Tout expliquer, l'heure de la transparence en politique et tout ça. Et donc il n'y a plus d'ombre et de mystère. Et si ce livre marche bien, si les gens l'achètent et le lisent avec plaisir, ils le recommandent, et je vous le recommande, c'est parce qu'il nous fait du bien. Enfin, un auteur qui s'arrête juste sur le seuil de la porte, qui ouvre la porte, ou la fenêtre, comme disait Jean-Marie, mais qui s'arrête là. Et après, à nous, le lecteur, de s'imaginer, effectivement, et d'en faire ce qu'on veut.
Je pense et j'espère que c'est un livre qui laisse sa place au lecteur aussi.
Tout à fait.
Qui laisse enfin, une espèce de...
C'est ça qui fait beaucoup de bien.
De blanc dans lequel le lecteur peut...
Et puis votre style aide, votre style, votre façon d'écrire. Bon, vous avez mis longtemps pour le faire, certains, mais votre style aide à cela aussi. Justement, c'est pas l'épopée, le lyrisme, voyez, c'est pas le sordide, le pathétique. Voilà, c'est ce que je voulais dire donc pour dire merci à la littérature contemporaine.
Ben, merci à vous.
Emmanuel Carrère.
Mais je voulais savoir si avant ou depuis, vous avez une certaine fascination, plutôt intérêt pour la littérature à partir des faits divers en général, ou si c'est complètement indépendant de votre démarche.
Non, pas particulièrement. Non, je dirais pas particulièrement. Enfin, il y a un livre auquel je pensais beaucoup, mais au tout début du travail que j'avais entrepris là-dessus, qui est le livre de Truman Capote et qui s'appelle « De sang-froid », qui est le récit d'un fait divers survenu aux États-Unis au début des années 60, je crois. Fait divers d'une nature très, très différente. Enfin, c'est-à-dire qui ne touchait pas du tout à la sphère intime, des choses comme ça. Vous savez, c'est ces deux petits voyous qui ont tué une famille de fermiers dans le Kansas, c'est-à-dire des gens qu'ils ne connaissaient pas uniquement pour pensant qu'ils avaient du liquide dans leur coffre-fort. Il n'y avait rien. Et donc, c'était, si vous voulez, il n'y avait pas de rapport psychologique complexe entre les meurtriers et leurs victimes. Donc c'est forcément un type d'histoire très très différent. Et de ça, Capote avait écrit un livre que je trouve un livre admirable, enfin, qui est une espèce de peinture de la, au fond une espèce de peinture de l'Amérique, quoi, à partir de ce micro événement qui, vous voyez, qui est en plus le type de fait divers qui normalement appelle une brève de cinq lignes dans les journaux dans les journaux nationaux. Enfin, donc, en écrivant là-dessus, Capote avait vraiment théorisé, lui, ce qu'il appelait la non-fiction novel, le roman non-fictif, c'est-à-dire l'idée d'écrire avec ce qui généralement est matière à journalisme, à reportage, c'est-à-dire une histoire vraie, de l'écrire sans rien inventer, en mettant un point d'honneur à ne rien inventer, mais en utilisant toutes les ressources du roman. Toutes les ressources, je veux dire, de composition, de style, d'agencement, de choses comme ça. Et ça, pour moi, bien que l'entreprise, en ce qui me concerne, s'est révélée très vite très, très différente de nature et d'enjeu, c'était quand même quelque chose de très stimulant, quoi, cette idée-là.
On va peut-être s'arrêter là, Emmanuel Carrère. Alors, je rappelle, comme l'a dit Christian Chaguet, que tout à l'heure, au Jean Vigo, vous présenterez dans le cadre de la manifestation Les écrivains font leur cinéma, un film de votre choix. Qui s'appelle Un jour sans fin.
Un film que, évidemment, comme je l'ai choisi, je vous recommande très chaleureusement.
Donc, c'est à 8h30 au Jean Vigo.
8h15
au Jean Vigo.
Je tiens à dire, pour ceux qui ne savent rien de ce film, que ça n'a absolument rien à voir avec ce type d'histoire, que c'est une comédie, et que c'est une comédie sur un sujet qui pourrait être absolument cauchemardesque, et qui est néanmoins d'un optimisme exquis. Ça, c'est vraiment un film que je trouve extraordinairement réconfortant.
Très bien. Et alors, tout le bien que vous pensez de ce livre, bien, on l'a dit tout à l'heure, et je ne peux que confirmer. Merci.